VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Abidjan, 17h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. En Côte d'Ivoire, le procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo pour crime contre l'humanité se poursuivra sans elle et avec des avocats commis d'office. C'est ce qu'a décidé aujourd'hui le président de la cour d'assises, le juge Boaki Kwadio. Ce mercredi, Mme Gbagbo a refusé de comparaître et ses avocats étaient aussi absents de la salle. Le juge Kwadio a estimé qu'on pouvait passer outre la présence de Mme Gbagbo pour poursuivre les débats. Il a ensuite commis d'office plusieurs avocats et renvoyé la prochaine audience au 28 novembre. Mme Gbagbo refuse de comparaître de plusieurs séances pour protester contre la non-comparution en tant que témoin de plusieurs personnalités ivoiriennes, dont l'actuel président de l'Assemblée nationale et ancien chef de la rébellion, Guillaume Soro, et l'ancien Premier ministre Jeannot Kouadio-Aoussou, ainsi que l'ex-ministre Charles Kofi Dibi. Au Nigeria, le groupe rebelle nigérian des Vengeurs du Delta, auteur de nombreux sabotages depuis le début de l'année dans le sud pétrolier, a revendiqué aujourd'hui plusieurs nouvelles attaques dans la nuit de mardi à mercredi contre des oléoducs dans l'état méridional de Bayelsa. Aucune confirmation de ces attaques de la part des autorités nigérianes ou des sociétés concernées. Mais les opérations de sabotage des Vengeurs du Delta ont provoqué une forte chute de la production de brut du Nigeria qui a cédé à l'Angola la place de premier producteur africain de pétrole. Toujours au Nigeria, l'ONU tire la sonnette d'alarme. 14 millions de personnes ont besoin d'une aide d'urgence et 75 000 enfants risquent de mourir de faim dans quelques mois. De son côté, le gouvernement nigérian a prévenu d'une famine imminente dans le pays. Anastasie Toudiech.
D'après Peter Lundberg, coordinateur de l'action humanitaire pour les Nations Unies au Nigeria, 14 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, dont 400 000 enfants dans une situation critique et 75 000 qui risquent de mourir dans les prochains mois. Il a donc lancé un appel aux donateurs à mettre la main à la poche. Pour l'instant, l'ONU n'a recueilli que 180 millions de dollars, alors que les besoins se chiffrent à 485 millions de dollars. Abuja voudrait faire plus pour les millions de déplacés par les attaques de Boko Haram dans l'état de Borno. Mais avec la chute du prix du baril, le géant pétrolier est entré en récession. Le pays manque de devises pour importer sa nourriture. Le porte-parole de la présidence, Garba Shehu, a demandé lundi aux producteurs de céréales nigérians de vendre sur le marché national au lieu d'exporter vers les pays voisins. Selon lui, le Nigeria pourrait être en situation de famine d'ici janvier prochain.
Sommet sur le climat à Marrakech au Maroc. À l'initiative du Maroc, un sommet africain s'est ouvert aujourd'hui à Marrakech en marge de la COP22 pour définir la position de l'Afrique face au réchauffement climatique. Alors que la 22e conférence sur le climat bat son plein, ce sommet de l'action africaine veut donner une nouvelle impulsion à la lutte contre le réchauffement et à la construction d'un modèle de développement durable sur le continent africain. Le roi Mohamed VI a accueilli ses invités africains en début d'après-midi au Palais des Congrès de Marrakech, dont une vingtaine de chefs d'État. Le sommet a débuté avec un discours du souverain qui a appelé l'Afrique à harmoniser ses positions face au changement climatique. Plusieurs présidents ont ensuite pris la parole, le Rwandais Paul Kagame, le Congolais Denis Sassou Nguesso et le Sénégalais Macky Sall, qui a rappelé l'attente des pays africains après les promesses des pays avancés de financer la lutte contre le réchauffement à hauteur de 100 milliards de dollars d'ici à 2020. Toujours sur le climat, ce sommet est pour l'hôte marocain l'occasion de vendre son initiative Triple A en faveur de l'agriculture africaine, initiative basée en partie sur l'accroissement de la fertilité des terres. Alors que le Maroc, avec ses importantes réserves de phosphate, est l'un des principaux producteurs d'engrais au monde. Toujours concernant la COP22 à Marrakech, plus de 360 entreprises, pour la plupart américaines, parmi lesquelles DuPont, Hilton, Nike ou Mars, ont écrit une lettre au président élu des États-Unis, Donald Trump, pour lui demander de respecter l'accord sur le climat adopté par la communauté internationale fin 2015. Nous, membres de la communauté des affaires et investisseurs aux États-Unis, réaffirmons notre engagement profond à répondre au changement climatique à travers la mise en œuvre de l'accord historique de Paris, ont écrit les signataires américains. Publié ce mercredi en marge de la COP22, la lettre également adressée aux parlementaires américains souligne que renoncer à mettre en place une économie à faible niveau de carbone mettra en danger la prospérité américaine.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Cameroun, 21 personnes sont mortes après avoir consommé de l'eau d'Ontol, une boisson locale très alcoolisée et réputée dangereuse. Les autorités des zones concernées ont annoncé l'interdiction de la production et de la commercialisation de ce breuvage produit et vendu généralement dans le circuit informel. L'eau d'Ontol est produite à base de vin de palme, de sucre et d'une écorce d'arbre. Il est bon marché, attirant les petites bourses qui ne peuvent s'offrir les bières ou du whisky vendus dans les commerces. Ce n'est pas la première fois que des morts sont enregistrées dans le pays après la consommation de cette boisson. Au Kenya, le gouvernement kenyan, confronté aux vives critiques des organisations de défense des droits humains, a repoussé au 21 mai 2017 la date de fermeture du complexe de Dadaab, le plus grand camp de réfugiés au monde qui abrite essentiellement des Somaliens. À 2 semaines de la date initialement retenue par le gouvernement, fin novembre, cette annonce fait suite à une requête du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés sur fond d'accusations de retour forcé de réfugiés somaliens qui veulent dans leur grande majorité rester au Kenya. Cour pénale internationale, la Russie retire sa signature du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Décision annoncée aujourd'hui alors que la 15e Assemblée des États parties au statut de Rome, le traité fondateur de la Cour pénale, commence à La Haye aux Pays-Bas. Ne partez pas, a déclaré aujourd'hui le président de cette Assemblée dans un message solennel aux 3 pays africains ayant récemment annoncé leur retrait de la CPI. Le puissant sentiment d'injustice des États africains qui accusent la Cour de persécution envers les Africains a pris les contours d'une crise qu'il faut vite circonscrire depuis le retrait de ces 3 États, a déclaré Sidiki Kaba, qui est aussi ministre sénégalais de la Justice. Le secrétaire d'État américain John Kerry a annoncé un cessez-le-feu à partir de demain jeudi au Yémen et un nouveau gouvernement d'union nationale, mais la proposition a été aussitôt rejetée par le gouvernement du président Abd Rabo Hadi. Plus de détails avec Eric Manirakiza.
Les rebelles chiites houthis sont favorables au cessez-le-feu, a déclaré M. Kerry à l'issue d'une brève visite hier à Abu Dhabi. Il a indiqué avoir longuement discuté à Oman avec des négociateurs houthis venus spécialement le voir. Le chef de la diplomatie américaine qui va quitter ses fonctions en janvier prochain a également évoqué la mise en place d'un nouveau gouvernement d'union nationale à Sanaa avant la fin de l'année. Mais le camp du président Abd Rabo Mansour Hadi, qui ne semble pas avoir été consulté, a vivement réagi. Abdelmalek Al-Mekalfi, ministre des Affaires étrangères, a dit que le gouvernement n'est pas au courant et n'est pas tenu par ses déclarations. 6 tentatives de cesser le feu ont déjà échoué au Yémen. La dernière en date, le 20 octobre, sous l'impulsion de Washington et de l'ONU, avait volé en éclat dès son entrée en vigueur. Hier mardi, la grande ville Taïs, dans le sud-ouest, a connu de violents combats qui ont fait au moins 39 morts.
Politique ici aux États-Unis, la transition de l'administration Obama au futur gouvernement du président élu Donald Trump s'accélère. Donald Trump et son vice-président Mike Pence se sont entretenus hier à New York pour discuter des candidats au poste clé de leur future administration. Précision de Jean-Roger Bion.
Messieurs Trump et Pence, qui assumeront le pouvoir le 20 janvier, ont plus de 4000 emplois à pourvoir. Mais pour l'heure, l'accent est mis sur les postes de secrétaire d'État, secrétaire à la Défense, ministre de la Justice et secrétaire à la Sécurité intérieure. Il s'agit là de ministères qui seront en première ligne dans la lutte contre le terrorisme. Mais aucune annonce n'a été faite à la fin des consultations entre le président élu et son numéro 2. Selon certains de leurs collaborateurs, Rudy Giuliani, âgé de 72 ans pour être nommé secrétaire d'État, ce farouche partisan de Trump n'a aucune expérience en politique étrangère, fait-on remarquer. Mais Giuliani s'est rendu célèbre il y a plus d'une décennie quand il était maire de New York lors des attentats terroristes du 11 septembre 2001. Il est devenu depuis un symbole de la détermination des États-Unis à défaire le terrorisme islamiste. Serait également sur la liste John Bolton, ancien ambassadeur de George W. Bush à l'ONU. Ce faucon républicain était, pour rappel, un chaud partisan de l'intervention américaine en Irak. Trump a toujours soutenu, lui, qu'il était contre.
Et pour terminer, Centrafrique, l'Union européenne, l'ONU et les grandes ONG ont multiplié aujourd'hui les plaidoyers en faveur de la RCA à la veille d'une conférence des donateurs à Bruxelles pour financer le relèvement du pays. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.